un culte qui n'est pas dénué d'arrière-pensée.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h20 sur France Inter. France Inter,
la différence.
15h et bientôt 4 minutes. Merci d'être à l'écoute de France Inter. On retrouve tout de suite là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet.
Bonjour Daniel, je te téléphone parce que j'ai écouté attentivement l'émission d'hier sur Jean-Baptiste Botul et je voulais féliciter l'érudition de tes invités. Mais toutefois, j'ai deux petites précisions à apporter parce que j'ai la chance d'habiter en Seine-et-Marne, un petit village, une maison que Jean-Baptiste Botul a occupée la dernière année de sa vie, c'est-à-dire en 1946. Et dans cette maison, j'ai trouvé le début de son autobiographie. Alors vous voyez, par rapport à ce qui a été dit hier, il écrivait quand même, mais bon, c'est tout parce que malheureusement, dans son autobiographie, il ne parle absolument pas de lui. Et puis, d'autre part, j'ai trouvé aussi une photo de lui. Alors, il est dans une chemise blanche immaculée avec un grand col largement ouvert et il est hilar, absolument hilar. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de légende à cette photo. Et puis, dernière précision, concernant sa correspondance avec Jean-Paul Sartre, elle a duré effectivement un bon moment, mais elle s'est arrêtée d'un coup. Tout simplement parce que Jean-Baptiste Botul n'avait plus de timbre. Voilà, c'est les précisions que je voulais apporter à cette magnifique émission d'hier. Je vous remercie encore. À bientôt.
Bonsoir. Je vous téléphone pour soutenir le Togo. Je suis très sensible aux élections qui vont se dérouler au Togo. Je souhaite que ça se passe dans de bonnes conditions au moins cette année. Je souhaiterais que vous puissiez parler un peu plus de ce petit pays que beaucoup ne connaissent pas et que vous puissiez rendre compte également de ce qui se fera réellement dans ce pays. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir.
Allô, AMG du Pas-de-Calais, rendez-vous ce jeudi 4 chez Tartous et compagnie à Mouchy-Breton pour notre repère mensuel. Nous parlerons entre autres de l'école et des deux dernières émissions que nous avons entendues avec notre économiste Lordon et le philosophe Botul. Au revoir.
Monsieur Mermet, Dieu sait si je ne pense pas comme vous, et je vous écoute quand même parce que peut-être je suis maso quelque part, mais votre émission d'hier, Dieu merci, nous n'étions pas le 1er avril, mais je suis devenu botuliste, mais à fond la caisse. Je vais me faire psychanalyser par les taxis et le bobsleigh. Dommage que Joséphine Baker ait disparu, sinon j'aurais été voir les bananes, mais ça je peux encore le faire. Et alors là, bravo, chapeau, c'était absolument génial, et Dieu sait si je ne partage pas toujours, très 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 souvent, vos façons de raisonner. Mais bon, vous écoute quand même, parce que sinon il n'y aurait plus de discussion possible. À bientôt, merci, au revoir.
Bonjour, j'avais un petit message à l'intention d'Antoine Chao. Ben, c'était pour lui demander, au lieu de traduire en paroles les chansons qu'on entend en espagnol, qu'il les chante lui aussi, quoi, parce que ça nous ferait vachement plaisir, ça égayerait un peu la traduction, et puis je suis sûr qu'il chante très bien en plus. Merci, au revoir.
Bon, on va essayer de lui demander à Antoine qu'il veuille bien chanter les traductions des chansons des corridos. On va en retrouver aujourd'hui dans l'émission d'aujourd'hui. On continue au Honduras. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Oh, 01 56 40 37 37.
Salut. À Perpignan, le prochain Café Repère aura lieu ce soir à 18h30 au Lisboa, place Rigaud, comme tous les premiers jeudis du mois. Nous parlerons de tout ce qui cloche, comme d'habitude. Nous en ressortirons joyeux et sereins, comme toujours.
Salut les AMG, c'est la Françoise pour le repère du 20e. C'est le samedi 6 mars au lieu dit 6 rue Sorbier dans le 20e de 17h à 19h. Venez nombreux. Salut.
Bonjour Daniel Mermet, toute son équipe. Voilà, je me permets de vous appeler. J'ai 24 ans et voilà que je reçois un mail ce matin où on annonce que la retraite à 50 ans avec 9000 euros par mois vient d'être approuvée pour les fonctionnaires de l'UE. C'est apparemment un article du Point du 19 mai 2009. Pour exprimer mon découragement, peut-être un peu de dégoût aussi. 24 ans, la vie devant moi, mais aussi beaucoup d'espoir qui s'écroule parfois. J'ai juste une question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, merci, merci, merci.
Bonjour, je propose que la France, au lieu de vendre des armes à toutes les dictatures du monde, envoie un petit peu de matériel militaire et quelques fusils d'assaut et quelques caisses de munitions à ces paysans du Honduras. Ce serait certainement mieux pour défendre les droits de l'homme dans le monde que de vendre des porte-hélicoptères à Vladimir Poutine.
Vous êtes à 214 jours de lutte, c'est le dernier jour de la lutte, la dernière manif.
Es el primero de una nueva etapa en la lucha.
Non, c'est plutôt le premier jour d'une nouvelle étape dans la lutte.
Le parti politique en el poder ahorita, el partido nacional,
le parti au pouvoir aujourd'hui, le parti national représente les élites les plus réactionnaires aujourd'hui en Amérique centrale.
C'est ce qu'on fait de plus réactionnaire, de plus ultralibéral, de plus oligarchique,
sans complexe. Oligarchie sans complexe.
El pueblo consciente.
Le peuple conscient ici est présent.
Bueno, como nosotros los campesinos, ¿verdad? No tenemos nada y el que tiene no quiere que nosotros tengamos algo, ¿verdad? Y peleamos nuestra tierra que
nous, les paysans, on n'a rien et puis ceux qui ont tout, ils veulent qu'on n'ait jamais rien et donc nous on se bat avec rien.
Qui est derrière ce coup d'état?
La oligarquía hondureña, la empresa, 10 empresarios, 2 empresarios.
L'oligarchie du Honduras, une dizaine de gros patrons.
Qui ont été les dueños de este país.
Qui ont été les propriétaires de ce pays.
La guérilla avec la machette et le portable.
Sí, así es.
Ouais, c'est comme
oui,
ça.
Oui. Et la deux choses.
L'oreille et l'arme.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Massie J'y suis avec Antoine Chao. Honduras, 214 jours de lutte héroïque.
Flight number 2, arriving from...
Ce sont des journalistes français
qui sont
venus pour couvrir le départ du président Manuel Zelaya Rosales et les adieux que le Front National de Résistance ont organisés. Étant à Tegucigalpa, ils ont appris l'affrontement que vous avez eu avec la police. Alors ils ont voulu venir ici, sur le terrain,
que sepan las condiciones en las cuales
pour témoigner des conditions dans lesquelles vous luttez.
De eso se trata.
C'est de ça qu'il s'agit.
Et autour de nous, c'est la nuit. La nuit et des palmiers à huile. On est dans une plantation de palmiers à huile. Et les hommes que nous entrevoyons dans l'obscurité, qui nous regardent, sont des paysans, sont des travailleurs, des ouvriers de ces plantations de palmiers à huile. Les plus chanceux d'entre eux gagnent $5 par jour en travaillant dans ces plantations. Aucun droit, bien évidemment, mais ceux qui nous entourent là n'ont plus aucune chance de travailler dans ces plantations. Ils sont repérés, ils ne sont plus embauchés, ils sont en lutte. Une lutte très ancienne à travers toute l'Amérique latine, la lutte pour la terre. Une vieille guerre de basse intensité et qui, en dépit des événements du coup d'État ou pas coup d'État, continue. Même si, évidemment, la présidence de Zelaya, de Manuel Zelaya, a donné beaucoup d'espoir à ces paysans pour essayer de récupérer des terres, de pouvoir avoir un peu de terre pour eux. Des négociations même ont commencé entre le gouvernement, l'Institut d'agronomie nationale du Honduras et ces fameux propriétaires. On dit impresario, c'est comme ça qu'on dit en espagnol. En fait, ce sont des très grandes fortunes qui se sont accaparées ces terres et qui exploitent le palmier à huile. Exclusivement le palmier à huile avec des quelques usines de transformation. Mais c'est tout. Et ces paysans-là, ben, veulent de la terre pour... C'est pas pour faire joli, c'est pas pour s'enrichir, c'est simplement pour manger. On en est là. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté au Honduras, 15%, 15 à 20% dans une très grande pauvreté, voire même des problèmes alimentaires, et ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas parce qu'une partie des Honduriens vont travailler, immigrer avec ou sans papier, mais la plupart du temps sans papier, aux États-Unis. Et les États-Unis ferment de plus en plus leurs frontières à cette immigration-là. Donc la vie devient plus difficile, le chômage ne fait qu'augmenter, et là on a besoin de terre, on a absolument besoin de terre. C'est ce que savait bien sûr le président Zelaya, il voyait venir ça. D'où cette lutte de ces paysans qui, un peu partout dans ces plantations, au risque de leur vie, se mobilisent et occupent ces terres, au risque de leur vie, parce que les grands propriétaires terriens de la région disposent de l'appui, évidemment, de la police, de l'armée. On est dans une région du nord-est atlantique du Honduras, et là vraiment c'est une zone de non-droit, si toutefois il y a du droit dans ce pays. Il y en a quand même peut-être un peu par endroit, mais en tous les cas là il y en a plus du tout, et ce sont ces propriétaires qui règnent avec la complicité des autorités et leurs propres milices et leurs propres tueurs et leurs propres amis qui font du narcotrafic. On va voir que dans cette région il y a d'immenses propriétés qui appartiennent à des narcotrafiquants qui ont pignon sur rue, qui font même de l'humanitaire. On va découvrir ça à l'occasion. Je rappelle très rapidement ce qui s'est passé dans ce pays. 2006, cet étonnant président élu, Manuel Zelaya, va commencer, lui qui est un libéral, une politique sociale sur un certain nombre de points qu'on a à plusieurs reprises évoqués, la réforme agraire, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, l'augmentation du SMIC, etc. Et puis il entre dans l'ALBA, c'est-à-dire autour du Venezuela, un regroupement de pays qui tentent de rompre la dépendance avec les États-Unis. Une autre réforme, c'est un projet de réforme de la Constitution qui intéresse beaucoup les habitants du Honduras, parce que la constitution actuelle qui a été faite par et pour les oligarques empêche tout progrès politique et social. Donc son succès, le succès étonnant de ce président, va entraîner ce fameux coup d'État du 28 juin dernier, au prétexte que il y aurait eu un viol de la Constitution, mais ça n'est évidemment qu'un prétexte qui ne trompe personne. La communauté internationale dénonce ce coup d'État, mais des élections avaient été prévues pour le 28 novembre. Elles ont lieu quand même dans ces conditions, malgré tout. Cette mascarade électorale a lieu. Les résultats sont dénoncés là à nouveau par la plupart des pays et des autorités, sauf par les États-Unis qui reconnaissent le résultat de ces élections, d'où l'investiture le 27 janvier du nouveau président qui est alors lui un véritable ultra-libéral très dur, donc qui arrive là au pouvoir avec le soutien des États-Unis, et le président Zelaya est chassé et aujourd'hui réfugié en République dominicaine. Voilà en gros ce qui s'est passé. Une lutte, un mouvement de résistance populaire très profond s'est mobilisé. Aujourd'hui la question, ce mouvement va-t-il se poursuivre ? Zelaya reviendra-t-il au pays et que fera-t-il dans son pays ? Cette histoire est formidable parce qu'elle montre les pratiques des États-Unis quand même. Entre, on va en Irak, c'est pour apporter la démocratie. On va en Afghanistan, c'est pour apporter la démocratie. Mais dans un tout petit pays qui échappe aux caméras et aux stylos des journalistes, et aux micros aussi des journalistes, là on peut s'en payer. Il y a eu un déroulement démocratique, mais on va favoriser, soutenir un coup d'État en violation complète des lois, des droits de l'homme et en soutenant finalement des violences, parce que c'est la résistance, ces 214 jours de résistance ont été émaillés de meurtres, d'arrestations, d'enlèvements et de disparitions. Voilà ce que les États-Unis ont soutenu actuellement. Madame Hillary Clinton fait un tour en Amérique latine pour essayer de redorer son image un peu ternie. Je pense qu'elle ne passera pas par le Honduras. Nous, on est dans cette, avec ces paysans qui continuent la lutte dans cette région au milieu de ces palmiers jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, Honduras, 214 jours de lutte héroïque.
Ay, Polache, las cosas que sufre mi gente. Hay que defenderse a pura turunca. Pa' que le caiga el turuncazo, señores. Pa' que le caiga el que nada debe, el que nada teme, el que nada debe, nada teme, todo le duele. Al que solo es jeta, al que solo es jeta, al que solo es jeta y billete y se dice profeta. Lobito vestido de oveja, que jalando ovejas te vi, montado en carros del año, en nombre de Dios haces daño. Al que se las tira, al que se las tira, al que se las tira de don Juan te has perdido. Por querer tanta mujer, perdes el verdadero querer. Tienes una cabeza arriba, pero la de abajo dominas.
La nuit est en train de tomber là dans cette plantation de palmiers. On est au milieu des gens, des paysans qui sont avec leurs machettes au pied et qui occupent cette partie de la plantation. On voit que là il y a aussi des gars qui sont armés, il faut bien le dire.
Sí, tenemos un gran serio problema en este lugar.
On a un sérieux problème ici.
El presidente Zelaya nos prometió ayudarlos. Vinieron y le dieron golpe de estado, como usted lo sabe.
Le président Zelaya est venu ici pour nous aider et puis ils lui ont fait un coup d'état et maintenant vous savez ce qui se passe.
Entonces hoy lo que necesitamos nosotros es el apoyo de todos los países socialistas en
nous,
este país.
Nous, c'est que tous les pays socialistes viennent nous aider ici.
Lesquels? Quels pays?
Socialistas de toda Europa.
Toute l'Europe est socialiste.
Oui, alors vous souriez, toute l'Europe est socialiste, ça vous fait sourire. Si nos amis là-bas savaient ce que nous pensons ici, prenons deux leaders de cette région, prenons Hugo Chavez et prenons Fidel Castro. Ben, soyons clairs, Fidel Castro, c'est celui qui fait du savon avec les vieux, et Hugo Chavez, c'est celui qui mange les enfants. En gros, j'exagère un petit peu, mais j'exagère à peine. La question est de savoir, pourquoi est-ce que des monstres pareils reste aussi populaire en Amérique latine? Très très populaire, Fidel Castro, très très populaire. C'est un bourreau, c'est un monstre, c'est une copie d'Hitler, c'est évident. Mais en fait, il est quand même très très populaire à travers toute l'Amérique latine. Quant à Chavez, c'est démocratique, là, pour le coup, il est réélu régulièrement. Est-ce que vous pensez que ça vient seulement de la bêtise de peuples abrutis et endoctrinés et manipulés? Ou peut-être y a-t-il d'autres raisons? Eh bien, les raisons, les voilà. Les raisons, elles sont autour de nous. Elles sont celles de l'injustice, tout simplement. Et de la misère, tout simplement. Et de la lutte très ancienne. Bien sûr qu'elle a été ranimée par ce qui vient de se passer, cet espoir donné par ce président qui, finalement, a été expulsé de son propre pays. Mais bien évidemment que c'est le résultat de ces de siècles, vraiment de siècles d'injustice, d'indignité et de lutte. Dans la région où nous sommes, il y a trois propriétaires trois propriétaires qui se partagent des milliers d'hectares de la région dans laquelle nous sommes, alors que ces paysans demandent simplement à cultiver quelques lopins de terre pour vivre ou s'organiser un peu plus en communauté, en coopérative. On va voir, on va visiter si on a le temps une coopérative, on va voir que ça peut tout à fait marcher, sauf que ça fait pas évidemment le bonheur de ces féroces propriétaires. Là donc, cette lutte, ces gens qui, dans la nuit, avec leurs machettes et peut-être aussi quelques armes, résistent et veillent parce que, je le disais en commençant, il y a ces milices patronales qui rôdent et qui n'hésitent pas à leur tirer dessus.
Bueno, esta tierra ha pertenecido, por lo menos anteriormente, a unos campesinos y después, pues, algunos motivos, pues, ellos pudieron.
Donc ça appartenait à des paysans avant, mais les grands propriétaires ont réussi à la récupérer, à la prendre.
Et vous vous êtes retrouvé ouvrier agricole.
Comme
ils sont puissants, ils ont pris le pouvoir ici, et nous on a été obligés de travailler pour eux, donc on était salariés.
C'est ça, alors qu'auparavant vous aviez vos coopératives, vous aviez créé des coopératives avec le soutien de l'État.
Exactement. Eso es lo que nosotros venimos exigiendo, que sinceramente, pues ahora con nuestro nuevo gobierno que hay, que se devuelva la tierra.
Mais nous, c'est ce qu'on exige au nouveau gouvernement, c'est qu'il avalise le fait de nous rendre ces terres et qu'on puisse les retravailler.
Vous êtes combien ici dans ce campement?
Este campamento ahorita habemos 56.
On est 56 en ce moment ici.
56 avec les femmes, les enfants, l'entend les petits là.
Associados.
Membres de cette coopérative.
Parte de la famille. Ya no te dedicando, todos somos más.
Mais si on compte tout le monde, on est plus.
Vous allez vous organiser à nouveau en coopérative?
Ya estamos organizados.
Oui, on est déjà organisé en coopérative.
Ah, d'accord.
Cooperativa San Esteban.
Elle s'appelle la Cooperativa San Esteban.
Son tierras. Que son especiales para nosotros los campesinos.
Parce que ça, c'est des terres qui sont très bonnes pour nous, les paysans, ici.
Porque en primer lugar, pues como los empresarios, ellos son dueños de las fábricas.
Entonces, parce que les grands patrons, les grands agro-businessmen, ils sont propriétaires des usines de transformation.
Entonces no es posible. Solo tener la palma, tendríamos que buscar sembrar los granos básicos.
Eux, ils ne sont intéressés que par le palmier à huile, mais nous, on a besoin de planter des aliments de base.
Planter des aliments de base pour votre alimentation à vous.
Pour notre sustento, para que nuestra familia tenga nuestro pan cotidiano.
Pour notre souveraineté alimentaire, pour qu'on puisse faire notre pain quotidien.
C'est fou, hein, le bruit de la nuit là derrière. Et tous les gars sont autour de nous, il y a le phare de la voiture, et tous ces gens occupent ce terrain, cette partie, cette parcelle là. Ils sont tous avec la machette au pied, il y en a qui ont mis le passe-montagne jusqu'aux yeux. Ils s'apprêtent à passer la nuit, à faire des tours de garde, à se protéger, et ils iront jusqu'au bout. C'est une lutte très ancienne qui est rebondie, qui repart, qui est l'histoire de la répartition des terres dans toute l'Amérique latine, mais ici, au Honduras. Et là, ils occupent des terres.
500 hectares.
C'est un terrain de 500 hectares qu'on occupe.
La toma aquí se llama El Despertar.
Ici, l'occupation s'appelle El Despertar, le réveil.
Est-ce que c'est un endroit où vous travaillez, vous, comme ouvrier agricole?
Non. Non, ninguno de nosotros.
Non, personne d'entre nous n'a travaillé ici.
Où est-ce que vous travaillez, alors?
En la otra, así, trabajando, jornaleando, un día, un lado, un día.
Nous, on est journalier, on a travaillé un peu partout, un jour ici, un jour là-bas.
Combien vous gagnez comme journalier?
Solo 100 lempiras.
100 lempiras par jour.
C'est 5 dollars. Et vous travaillez en ce moment?
Non, porque estamos aquí en pie de lucha.
Non, on travaille pas parce que ici on est en lutte, on est sur le pied de guerre.
D'accord, mais comment vous faites alors pour vivre?
A lo poco que podemos conseguir, lo que consiguen los otros familiares de nosotros, puro frijoles con tortilla nada más.
Alors on fait comme on peut avec peu de choses, avec ce que nous donnent nos familles, donc du riz et des haricots, c'est tout.
Depuis combien de temps vous êtes là ici?
Yo aquí soy nacido en El Despertar.
Moi je suis né ici dans El Despertar.
La lucha tiene 15 años desde que tenemos estar luchando con estas tierras, pero tenemos 2 meses de estar en.
La lucha ça fait 15 ans qu'elle a démarré, mais ça fait 2 mois maintenant qu'on occupe ici.
D'accord. Là, cette nuit, comment vous vous organisez?
Mire, ahorita aquí no estamos durmiendo, no que estamos todos, estamos en guardia, porque según los rumores dicen que los van a tener un ataque
donc,
de
ici,
los militares.
Donc ici, cette nuit, personne va dormir, parce qu'on nous a prévenu qu'il allait peut-être y avoir une attaque ce soir, donc personne dormira.
Alors là, il y a les garçons qui ont mis le passe-montagne, là, hein, qui sont prêts à la bagarre.
Et estamos en un movimiento campesino por defender los derechos de nuestras tierras.
Et ben, ce qui se passe ici, c'est que nous, on est avec tous nos camarades ici, en train de défendre les droits à la posséder nos terres.
Nosotros aquí vamos a permanecer hasta tener una respuesta que sea verdadera positiva para nosotros.
Y nous ici on restera, on occupera tant qu'on n'obtiendra pas une réponse positive à nos revendications.
Comment vous êtes installé ici?
Quemaron todas las casitas y hasta el día de hoy estamos ahí como el carrobo, como el más desgraciado del mundo.
Nous depuis
Acá,
ici il y avait des cabanes partout, mais au précédent des logements ils ont tout brûlé. Donc maintenant on vit comme des animaux là, on vit au milieu des palmiers, on n'a plus rien.
Mire las armas que andamos.
Regardez les armes qu'on a.
Necesitamos un equipo para combatir estos pícaros, hombre.
On a sí. Que des machettes, on a besoin de matériel.
Buenas armas de combate, pues.
On a besoin de bonnes
sí,
armes de combat.
Para combatir estos mañosos pícaros.
Pero hay que seguir firmes, compañeros. ¿Tienen miedo?
No. Estamos dispuestos a morir.
Por la tierra, estamos en pie de guerra, ¿verdad?
En pie de guerra, sí.
Por la tierra.
Estamos en pie de guerra.
Así es. Vamos al carro.
Dale, al carro.
Il y a une voiture qui arrive là-bas au loin. Donc il faut qu'on aille dans le véhicule. Tout feu est en fait demi-tour. Donc ça ne va pas être rien.
On ne sait pas qui arrive, mais ici c'est la route qu'utilisent en général les troupes, les milices de René Morales. Donc on file.
La última vez que estuvimos acá. El día de la toma de aquí,
le jour de l'occupation de ce lieu, on a eu le même problème.
Un carro sin placas nos siguió hasta Tocoa.
Une voiture sans plaque d'immatriculation qui nous a suivi jusqu'à Tocoa.
Ese mismo día en la tarde, de un carro igual, dispararon contra un camión lleno de trabajadores y mataron a un niño, 8 años.
Et ce jour-là, un même véhicule sans plaque d'immatriculation a ouvert le feu sur un camion de travailleurs et un enfant de 8 ans est mort.
Sí, entonces esta zona es bastante, bastante frecuentada por paramilitares porque cerca está el centro, el quinto batallón de infantería en Río Claro.
C'est une zone où il y a beaucoup de paramilitares parce qu'on est près d'une caserne du 5e batallón d'infanterie de Río Claro.
Aquí es donde han habido más ataques a los campesinos y han habido más muertos.
C'est le secteur où il y a eu le plus d'affrontements et on compte le plus de paysans morts sur cette route-là.
Alors on est tout feu éteint, il y a juste Radio Globo qui marche dans la voiture. La moto qui nous précède est tout feu éteint aussi.
Le passager était armé, il avait un fusil a priori. Et il a ouvert la route. Et là on attend qu'il n'y ait plus de voitures sur la route centrale pour pouvoir s'y engager. Donc pas un bruit, pas une lumière plutôt. Le moteur lui s'est avancé jusqu'à la route. Et il attend pour nous donner le feu vert. Voilà, j'ai l'impression que là, il nous donne le feu vert. Il vient d'allumer ses lumières 3 fois. Voilà, donc la première voiture vient de s'engager sur la route. Tout feu éteint, toujours. Heureusement que c'est une nuit de pleine lune, quand même. Hein. Ça permet de pas se foutre dans le bas-côté. Voilà, on a un deuxième signal de lumière. Donc nous aussi, on peut y aller. On avance, on accélère. Et on va s'engager sur la route. On dit au revoir aux copains là, qui nous ont escortés en moto. Donc on est sur la route, on va pouvoir tracer. Et on rallume les feux.
Bueno, vamos para el movimiento campesino La One. Tierras tomadas en el 2001 y para ahí vamos ahorita. Nos están esperando.
Alors on est attendu dans une autre communauté qui avait pris des terres en 2001.
Aquí hay una familia que son los jefes de los narcos en Honduras.
Ici, il faut commencer à faire attention parce qu'on va passer devant une famille, c'est la famille des chefs des narcos en Honduras.
Ellos son apellido Rivera, pero todo el mundo los conoce con el apodo de los cachiros.
Leur nom c'est Rivera, mais tout le monde les appelle ici par leur surnom, los cachiros.
Ellos limpiaron la zona de las bandas contrarias, han matado a medio mundo.
Donc, ils ont nettoyé tout le secteur des bandes rivales, ils ont tué la moitié de la population.
Sí. Es más, se dieron el gusto de asesinar en el año 2006.
Se sont fait le plaisir d'assassiner en 2006
al diputado liberal del departamento de Colón.
Le député libéral du département de Colón, d'ici.
Se llamaba Juan Ramón Salgado, el hombre.
C'était Juan Ramón Salgado, son nom.
Y era compadre del presidente Zelaya.
Il était très proche de Manuel Zelaya.
Y ahorita con el golpe de estado en las elecciones, ya lograron meter a su primer diputado narco.
Et là, avec le coup d'État, ils ont réussi à placer leur premier député narco, un narco-député.
Que es primo de los cachiros.
C'est un cousin des cachiros.
Porque hace varios años vienen ellos intentando que les den la jefatura del Ministerio de Seguridad.
Donc parce que ça fait quelque temps que los cachiros, ils essayent de récupérer le ministère de la Sécurité.
Hey, compa. Aquí vengo, compa.
Bah oui, bah oui.
C'est le minimum. Il suffit de savoir par qui on va être protégé, quoi. C'est un choix. Voy
con la comisión. Ya voy a ver cómo hay uno.
Sur la route du Honduras, corrido.
Camino hacia Honduras.
Sur la route du Honduras. Il est passé par San Marcos.
Pasando por Santa Rosa.
Il est passé aussi par Santa Rosa, où ses amis l'attendaient. Son nom est Javier Rivera, l'ami de tous les amis. Cayo Sierra, dans le département de Colón, est une véritable merveille. Et c'est là qu'il a sa famille, sa grand-mère, appelée Angelina Maravial. Il a des amis courageux, 100% du département de Colón. Ici, on joue avec sa vie. Et on respecte le gagnant. C'est mon pays chéri. C'est là qu'il vit dans la montagne.
Voilà, toujours dans cette région du Honduras, on roule de nuit avec notre ami Felipe qui conduit, qui nous montre les différents endroits de ces immenses plantations de palmiers à huile où les paysans s'organisent, occupent les terres, luttent pour essayer d'obtenir quelques droits qui leur avaient été reconnus, qui commençaient à être espérés au temps du président précédent, Zelaya, mais là, c'est mal parti. Mais je pense que la lutte continue. C'était des luttes, on vient de nous le dire, ce paysan vient de le dire, ça fait 15 ans, il pourrait dire ça fait 150 ans, ou ça fait 3 siècles qu'on lutte. C'est la MUCA avec qui nous sommes. MUCA, ça veut dire le mouvement unifié des campesinos, des paysans de la Guane. Ils sont organisés, ces gens-là, hein, c'est pas seulement comme ça, des luttes un peu hirsutes. On est dans une région qui a servi, on l'a dit, redit, de base arrière aux États-Unis dans la lutte contre les guérillas du Salvador, du Nicaragua essentiellement, et ça, ce qui nous renvoie à l'affaire de l'Iran Gate
et l'affaire des contrats. C'est une histoire qui est toujours voilée, cachée, on dit oh, on sait pas encore. Enfin, il y a quand même des éléments qui sont sortis à la lumière. Il faut rappeler le contexte rapidement. Plusieurs membres de l'administration Reagan ont, à cette époque, vendu illégalement des armes à l'Iran, qui était le grand Satan, un ennemi avoué des États-Unis, en utilisant les profits de ces ventes pour financer secrètement, et malgré l'opposition du Congrès des États-Unis, les fameux contrats, c'est-à-dire des unités militaires de contre-révolution, un mouvement contre-révolutionnaire nicaraguayen pour lutter contre la révolution sandiniste au Nicaragua. On voit donc, enfin ça a été un scandale énorme, et on voit quelle est la politique traditionnelle des États-Unis dans cette région.
Vamos a ver, a finales de la década de los 70,
à la fin des années 70,
à la sombra de la CIA y el Pentágono.
Donc à l'ombre de la CIA et du Pentagone.
Los jerarcas militares en Honduras empezaron a practicar el negocio del narcotráfico.
Les chefs militaires du Honduras se sont lancés dans le trafic de drogue.
En pago para que Honduras permitiera el establecimiento de bases militares, permitiera...
C'était la contrepartie pour que le Honduras laisse les bases militaires américanas s'installer.
Permitiera invadir a países como Nicaragua...
Pour faciliter l'invasion du Nicaragua.
Entonces, en los 80, a principios de los 80, cuando... fue la época de las grandes luchas insurgentes en Centroamérica.
Donc dans les années 80, quand il y a eu toutes les luttes révolutionnaires en Amérique centrale.
Individuos como Oliver North, por ejemplo, usaron fondos de narcotráfico para comprar armas contre el gobierno sandinista de Nicaragua, tipo este de l'Iran Gate.
Donc à l'époque, c'est l'époque de l'Iran Gate où en fait Oliver North des États-Unis avait facilité le trafic de drogue pour acheter des armes.
Entonces, desde los 80, los jefes militares amasaron enormes fortunas por el narcotráfico.
Des fortunes se sont bâties dans les années 80 grâce au trafic de drogue.
Claro, entonces a la sombra de ellos se fueron sumando empresarios que fueron metiéndose al negocio, al grado de que el narcotráfico en Honduras se institucionalizó.
Donc petit à petit, des hommes d'affaires, des propriétaires se sont lancés dans le trafic et au final, le trafic de drogue s'est institutionnalisé au Honduras.
Sí, y ahora somos prácticamente un narcoestado.
Et maintenant, on peut dire qu'on est un narco-état.
Aquí estamos en la margen derecha ya.
Ça y est, là, on passe la rivière, on est sur la rive droite.
La zone de Facusé.
Voilà, on est chez Facusé, là.
C'est territoire Facusé.
Facusé, mais il ne fait pas que ça, il ne fait pas que du palmier à ville.
En la revista Time, hace unos 5 años.
Dans le journal Times, il y a 5 ans à peu près.
Y hubo un reportage exclusif sur Miguel Facusé, donde lo declaraban el mago de las marcas.
Il y avait un reportage spécial sur Miguel Facusé, on l'appelait le magicien des marques.
Sí, wow. Sí, es un empresario agresivo. Geniales. No se puede negar que es un hombre
C'est un patron agresif, c'est quelqu'un de génial, on peut pas lui retirer ça.
Tiene inversiones en todo Centroamérica y el Caribe.
Il a des investissements dans toute l'Amérique centrale et dans les Caraïbes.
En México y en Cuba.
A Mexico y a Cuba.
Así que él tiene una cartera de productos inmensa. Él no solamente produce derivados de la palma.
Donc lui, il est vraiment multicarte, hein. Il fait pas que des dérivés de la palme.
Sí, esta finca de los cachiros.
Là, oui, là, vous voyez, ça, c'est une usine des cachiros. Donc du plus grand cartel de la drogue.
Los postes tienen la punta blanca, esa es característica.
Vous voyez les petits poteaux là de la barrière, ils ont le dessus qui est peint en blanc, ça c'est vraiment caractéristique.
Entonces Facusé produce todo, es un hombre archimillonario que levantó sus negocios robando dinero de una institución que había creado el Estado a principios de la década de los 80, que se llamaba CONADI.
Alors Miguel Facusé, effectivement, il est très très riche, il a beaucoup beaucoup d'entreprises et il a commencé sa fortune en volant de l'argent à l'État, à une institution de l'État dans les années 80 qui s'appelait
CONADI.
La CONADI.
Significaba porque ellos la quebraron, Corporación Nacional para el Desarrollo de las Inversiones.
Donc c'était la Corporation Nationale pour le Développement des Investissements et ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'il l'a complètement coulé à l'époque.
Tenemos policías. Ah.
Donc là, il y a la police, on va ranger les micros.
Qué lindo es tener un país que se quiera de corazón, como lo quiere Mesellaya. Hoy tenemos la oportunidad de poderlos ir a rescatar. Mela la esperanza de Honduras. Desconfiado se encuentra mi pueblo. Y aquí nadie él quiere confiar. El dirigir los destinos de Honduras a Mesellaya sí va a confiar. Mesellaya es salido del pueblo y nuestra democracia social. Con tu voto, mi querido hermano, nuestra Honduras iba a cambiar.
Toda la fuerza, toda la lucha es y debe ser el empeño para vencer y transformar Honduras.
C'est samedi soir à Guadalupe Carney.
C'est vachement bien cet endroit.
C'est la grosse Java quoi. Donc on est dans une communauté mais qui est déjà bien plus établie quoi. Il y a des maisons.
Ouais, c'est la fête, c'est formidable samedi soir. Tout le monde est en vélo. T'as vu, tout le monde se déplace en vélo dans la communauté là. Il y a un dancing d'enfer là au milieu. Tous les gens sont dehors. Beaucoup de monde, regarde. Beaucoup, beaucoup d'enfants.
Et en même temps, c'est le centre névralgique de la lutte des paysans, de la vallée de Laguane.
D'accord.
Bon, c'est le dancing, hein. Là, c'est magnifique, magnifique. Grand espace, là, au milieu du village. Et là, les tromboscopes...
Il y a de l'électricité, hein, c'est ça la différence aussi, qu'il y a du courant. Il y a des maisons en dur.
Alors voilà un haut lieu de la résistance et en même temps une communauté tout à fait étonnante. On arrive là, on entre là, c'est un peu gardé, c'est un peu par des paysans eux-mêmes qui sont installés là. En fait, cette communauté a été créée en l'an 2000, lorsque des familles se sont installées dans des bâtiments qu'on aperçoit, qui sont les anciens bâtiments du CREM. Et le CREM, c'était le centre régional d'entraînement militaire. C'est un endroit où, ben voilà, on entraînait les militaires dans le cadre de la lutte anti-guérilla. Alors, ben voilà, la guérilla, on sait comment elle a fini. Donc, les bâtiments se sont trouvés vacants et les paysans se sont installés et ont constitué cette communauté. Ils sont 2000 environ dans cet endroit. Et ce qui est intéressant, c'est le nom de l'endroit où nous sommes, Guadalupe Carney. Qu'est-ce que c'est, Guadalupe Carney? Eh bien, c'est le nom d'un homme, Guadalupe Carney. Et c'était un jésuite américain, états-unien, donc un gringo catholique et marxiste et révolutionnaire, et qui s'est battu auprès des paysans dans la guérilla hondurienne. Il y a une guérilla hondurienne qui a pas duré très longtemps, mais qui a été très héroïque et très courageuse. Et il considérait que voilà, son apostolat était marxiste aussi. Voilà, il voyait pas tellement de différence entre Marx et Jésus. Il n'est pas le seul dans cette région du monde. On a souvent parlé de la théologie de la libération. Eh bien, cet étonnant jésuite révolutionnaire, James Carney, a vécu dans cette région et il est mort en 1983 dans des conditions assez épouvantables. Il a été arrêté, il a été torturé et jeté vivant du haut d'un hélicoptère. Voilà, c'est donc un martyr pour les paysans et les lutteurs sociaux de cette région. Et il a donc donné son nom à cette communauté. On arrive, c'est samedi soir, c'est très gai, très joyeux, plein de vie, de gens, de jeunes, de gamins qui dansent et qui chantent. Et on va essayer d'en savoir plus.
C'est un endroit fabuleux. De la lumière, un village, la fête, des gens partout, des gosses, la gaieté, les chansons, c'est une communauté.
Bueno, aquí estamos en la comunidad Guadalupe Carney.
Donc ici on est dans la communauté Guadalupe Carney.
Y esta comunidad nació el año 2000.
Cette communauté elle est née en 2000.
14 de mayo.
Le 14 mai.
Poquito más de 1000 familias fueron trasladadas de diferentes partes de otros municipios para ser ubicadas aquí en el proceso de reforma agraria.
Donc à peu près 1 millier de familles ont été amenées ici pour s'installer dans le cadre de la réforme agraire.
Familias que tenían que ser movilizadas por los fenómenos del Mich que vivían así en las cuencas de las quebradas.
Familles qui avaient été victimes de l'ouragan Mich ou qui vivaient dans des régions qui étaient dangereuses.
Hubo una coordinación entre las organizaciones campesinas y también el gobierno en ese momento tuvo una presión fuerte por los desastres naturales en la reunión de Estocolmo.
Donc là, c'était une collaboration entre les mouvements paysans et l'État. L'État qui avait reçu une pression forte après la réunion de Stockholm, la dette du pays devait être annulée.
C'est-à-dire qu'en échange, la contrepartie de l'annulation de la dette a été que le gouvernement du Honduras s'engage, après Mitch, puisque c'était juste après cet ouragan, s'engage à construire des communautés de ce genre.
Sí, ese fue el compromiso. Entonces lo que falta que contarle a ustedes es el problema que tuvimos aquí ya en estas tierras.
Oui, oui, c'était ça l'arrangement, c'était ça le compromis. Mais maintenant ce qu'on va vous raconter, c'est des problèmes qu'on a rencontrés ici. Nous.
Bueno, aquí está organizado por sectores, lo dividimos así a nivel de la comunidad. La estructura comunitaria es el patronato.
Donc ici on est structuré en secteurs et la... ¿Qué es el patronato? No, on peut pas là. Vale. Vamos a comer y vemos lo que hacemos. Vamos, ¿eh?
Vamos a comer. On va manger, là, on n'en peut plus. C'est très, très, très bruyant, on est épuisé. Voilà, et on continuera demain matin.
Sí, yo escuché la información hoy, que ya las entrevistas que había dicho, que estaba ya ofreciendo su mano amiga al gobierno de Pepe Lobo.
Donc moi j'ai entendu aujourd'hui à la radio que Álvaro Uribe, le président de la Colombie, est venu offrir son amitié à Pepe Lobo.
Alianza.
Voilà, ils font alliance.
A Colombia le conviene de que Pepe reconozca su ayuda porque Honduras ha sido el puente por donde Colombia comercializa al norte.
La Colombie était très intéressée du fait de renouer les contacts avec le Honduras et avec Pepe Lobo parce que c'est le chemin pour commercialiser vers les États-Unis.
La mayor parte de su negocio es cocaína, es droga.
Et la plus grande partie du business de la Colombie, c'est la drogue, la cocaïne.
Aquí donde estamos es el puente, la mosquitia.
Ici, c'est Colombia. La passerelle, c'est le point de passage.
Más bien este lugar donde nosotros vivimos es el lugar envidiado porque lo quitamos a los narcos, se lo quitamos a los narcoganaderos que habían acá.
Et ici, ils nous en veulent beaucoup parce que ce terrain qu'on occupe, on l'a pris aux narcotrafiquants qui étaient installés ici.
Aquí, por ejemplo, donde era el tren, aquí había pistas de aterrizaje bien cerca de acá.
Donc ici, par exemple, il y avait des pistes d'atterrissage vraiment pas loin d'ici.
Donde descargaban y aquí estaban las bodegas donde ellos traían el producto del avión. Lo embodegaban y otro día temprano en la noche a Puerto Castilla.
Donc eux, ils déchargeaient la marchandise qui arrivait des avions, ils la déposaient dans ces entrepôts et après ça partait par la route jusqu'à Puerto Castillo, jusqu'au port sur la Caraïbe.
Sí. Ese fue el gran desafío que le hicimos los campesinos a los narcoganaderos aquí. Pararlo nosotros en el centro del puente donde ellos cruzaban. Territorio controlado de
ça,
ellos.
C'est notre grande victoire sur les narcotrafiquants, c'est de leur avoir coupé la route
en prenant ce territoire qui était leur passage terrestre pour aller jusqu'à la côte.
La pista de aterrissage aparece en las propiedades de Facusea, como Facusea es intocable para el gobierno.
Miguel Facusea, lui, il est intouchable, donc les avions peuvent se poser sur ce terrain, il sera jamais ennuyé.
Si es tío de Carlos Flores Facusea.
Et Miguel Facusea, c'est l'oncle de Carlos Flores Facusea.
Presidente de la República de Honduras.
Qui a été président de la République du Honduras.
2001-2004.
De 2001 à 2004.
La cara que aparece en todo Colón y que todo mundo dice los narcos son los cachiros, pero ese solo es una figura.
Oui, ça, on parle toujours de cachiro, c'est lui qui représente, mais ce n'est qu'une figure, ce n'est qu'un personnage.
Ça c'est quoi des genoux?
C'est le bistrot.
C'est le bistrot, ils sont en train de jouer, je sais pas si c'est aux cartes ou aux dominos là-bas.
Il y a des drôles de bruit là, on se demande ce que c'est.
Ah, ils sont en train de regarder un putain de film de guerre. Des mecs qui se battent dans la boue. Ah. C'est un peu eux-mêmes. Regarde le paysage, c'est comme ici. Il y a des gars qui ont des chapeaux comme ici. Il y a de la gadoue comme ici. Et en dessous, sur la gueule, bah, comme ici. C'est comme un miroir, hein.
Voilà, donc ça, pas d'inquiétude, hein, c'est le film, hein, c'est pas, on est, il y a pas un assaut des militaires ou des paramilitaires.
C'est un jeu, c'est un grand plateau de bois, creusé avec des petits cercles. Par où la bille.
C'est un peu la roulette, quoi, mais local, quoi, artisanal.
C'est ça. Mais on joue pour l'argent, hein. Tac, 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 je gagne, je perds.
C'est pas des grosses sommes. C'est sain et éducatif, il dit. C'est pour toutes les générations, ce jeu. Ah, c'est à moi.
Tu tires le maule et tires blanca, pierde.
Donc, si tu lances la bille et c'est, tu vas dans le blanc, t'as perdu.
Si cae blanca, pierde, cae negra, gana.
Negro, resistencia.
Gana.
A chacun a sa bille en fait. Ils ont tous des billes et chacun la lance quand il veut.
Voilà, on va finir avec la communauté Guadalupe-Carnet, donc dans cette région du Honduras. 5000 personnes vivent là dans cette communauté. C'est assez étonnant. On se demande quand même comment ça s'organise, comment ça marche. Quelques réponses. Mais comment vous organisez? Qui est le chef de la communauté? Il y a des élections? Comment vous faites?
Hay una junta directiva regional.
Il y a un groupe dirigeant régional.
Cada dos años se cambia la junta directiva.
On change le bureau, la direction, tous les deux ans.
En este caso, el año pasado se cede mi función yo, está él.
Bueno, l'année dernière, j'ai arrêté, j'ai cédé ma place, et puis c'est Agustín qui a pris ma place.
Comment vous réglez les questions de sécurité, de police?
Esa es buena pregunta. Aquí en 10 años que va de ser fundada esta comunidad, ha intervenido muy poco la policía.
Depuis 10 ans qu'existe cette communauté, la police n'est quasiment jamais intervenue.
Y se han dado varios casos. Se reúne el equipo de coordinación que hay.
Il y a eu plusieurs cas où on a réuni donc la direction de coordination de la coopérative.
Sí, hay reglamentos. Se regula.
Il y a un règlement, il y a des normes et puis on les applique.
Aquí la policía no tiene por qué venir a joder.
Ici la police ne vient pas nous emmerder. Il n'y a rien à faire ici pour nous emmerder.
Vous avez des écoles, une école?
Sí, ahí está.
Sí. Oui, il est là-bas.
Sí. Correct.
École et jardin d'enfants.
Et pour la santé, vous avez un hôpital, vous avez une clinique.
Ahí hay un centro de salud, mira.
On a un centre de secours là.
Sí. Está la iglesia católica.
¿Y a la iglesia católica va?
Está la radio.
¿Y a la radio?
Hay un banco campesino.
¿Y hay un banco paysan?
Y hay una agropecuaria.
Una tienda agropecuaria.
¿Y hay una boutique que vende alimentos?
Todas son con ayuda de los países de afuera.
Y todo eso es gracias quand même a des aides internacionales.
Pero si de nouveau veulent venir s'installer ici, supposons que moi je viens m'installer ici avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Est-ce que c'est possible ou?
Comme on est gusto, aquí lo esperamos.
Bien sûr, on t'attend ici, il n'y a pas de problème.
Correcto,
si les bras ouverts, on t'accueillera.
Aquí queremos pueblo, amigos.
Ici, on veut du peuple, de la population, des amis.
Amigos que luchan por la misma causa.
Des amis qui luttent pour la même cause que nous.
Aquí al final de la calle está un solar donde se construyó, ya hoy casi no sirve, una casa para huéspedes. Allí vivió más de dos años una pareja.
Et on a même ici construit une maison d'accueil, donc on peut accueillir des gens qui sont de passage, et on a accueilli d'ailleurs quelqu'un pendant une famille pendant deux ans ici.
Somos hospitalarios.
Nous, on est hospitaliers, c'est sûr.
Et
t'as vu sur le chapeau de Agustín, il y a marqué modelo, le modèle.
Le modèle.
Ah, sí, correcto.
¿Y si es un modelo? ¿Es un modelo?
Así es, correcto.
Bueno, listo.
Bueno.
Voilà un endroit hein, pour vos prochaines vacances, vous avez compris, on va vous donner les coordonnées précises. C'est dans le nord-est du Honduras, c'est un endroit assez chaud, en tous les cas très très chaleureux. Vous pouvez rejoindre les amis de la communauté de Guadalupe Carné, vous serez reçus, mais alors surtout si vous ne venez pas, c'est gay, la musique est formidable, surtout le samedi soir. C'était un reportage avec Antoine Chao. On se retrouve demain, avant de partir lundi pour le Salvador. On évoquera Poveda, bien évidemment, et son film Vida Loca, qui d'ailleurs sort en DVD ces jours-ci. Montage John Santura et Antoine Chao. Merci à Rafael Alegría, Andy Cruz et Mel Barrios. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, où nous avons mis à votre disposition d'ailleurs la version longue de l'entretien de lundi avec Frédéric Lordon. Vous êtes très nombreux à vous intéresser à cet entretien. Vous pouvez l'écouter donc sur là-bas.org et en longueur donc si vous vraiment vous êtes en manque de Lordon, ben voilà, vous pouvez le réécouter pendant tout le week-end de la technique aujourd'hui. Olivier Daligo et Céline Bonhomme, c'est Coyen Nguyen et Raphaël Moutea qui ont réalisé cette émission assistée. D'Agnès Lebot et c'est Céline Rouzet qui attend vos messages au répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h. La base, j'y suis au Honduras. Je vous laisse pour les infos avec Sophie-Marie Lemaire. Salut.
Nicolas Sarkozy décrète la mobilisation générale, pas moins, pour enrayer le déclin de l'industrie française. Le président, qui s'exprimait en clôture des états généraux de l'industrie, a détaillé une série de mesures pour aider le secteur. Il demande notamment le renforcement des prérogatives de l'État, notamment dans les entreprises publiques. Il souhaite également que la production industrielle augmente de 25% d'ici à 2015. Un chiffre inquiétant, le chômage a atteint 10% au quatrième trimestre de l'an dernier, en hausse de 0,5%. Cela représente 2 700 000 Français à la recherche d'un emploi. C'est le plus mauvais chiffre enregistré depuis 10 ans et la hausse devrait encore se poursuivre au moins jusqu'au mois de juin. Plusieurs centaines de personnes se recueillent actuellement dans la cathédrale de Luçon en Vendée. Une cérémonie d'hommage et d'obsèques des victimes de la tempête y a lieu en ce moment même en présence de François Fillon, de Philippe de Villiers, le président du Conseil général de Vendée, ou encore de nombreux sapeurs-pompiers. À 15h, toutes les églises du département étaient invitées à sonner le glas pour les 53 victimes de Xintia. Les secouristes ont arrêté ce matin leur recherche à la Faute-sur-Mer. Ils s'emploient désormais à nettoyer les rues et les maisons d'inondations et à évacuer l'eau encore présente en de nombreux endroits. Côté assureur, on a fait les comptes et selon une première estimation rendue publique par la Fédération française des sociétés d'assurance, la tempête pourrait coûter en tout un milliard d'euros. Un pédagogue infatigable, une grande figure de l'université française. C'est par ces mots que Valérie Pécresse, la ministre de l'enseignement supérieur, a rendu hommage à Jacques Marseille. L'historien et économiste est mort ce matin des suites d'un cancer. Il était âgé de 64 ans. Un vote sous tension, aujourd'hui au Togo, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. Le sortant, Faure Gnassingbé, est donné favori. Il espère asseoir sa légitimité grâce à ce scrutin. Il avait en effet succédé à son père en 2005, après une élection au résultat contesté par l'opposition. Des heurts violents avaient alors fait plus de 400 morts. Violence et élection, un cocktail qui malheureusement vaut aussi pour l'Irak. Depuis ce matin, les bureaux de vote sont ouverts pour les législatives. Des bureaux ont été visés par des attentats. On compte au moins 14 morts à Bagdad. Au Chili, les pelleteuses sont entrées en action pour déblayer les gravats après le séisme de samedi. Un séisme qui a fait 800 morts dans le centre du pays, selon le dernier bilan. Le gouvernement chilien a annoncé ce matin que les travaux de reconstruction devraient durer au moins 3 ans. Un mot de tennis pour finir avec le début demain de la Coupe Davis. C'est Gaël Monfils qui ouvrira les hostilités pour la France face à l'Allemagne. Il sera opposé au numéro 1 de cette équipe allemande, Philippe Kohlschreiber. Le deuxième match opposera le français Jo Wilfried Tsonga à Benjamin Becker.
Librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Cette semaine, nous serons à la Foire du Livre de Bruxelles avec les auteurs qui font l'événement. Le philosophe Michel Serres, membre de l'Académie française, vous parlera de la crise mondiale. L'écrivain belge Yvon Toussaint vous emmènera en Haïti. Et puis nous parlerons bande dessinée avec Bob de Groot, scénariste de Léonard, et avec Jean Tellet pour le Montespan adapté en BD.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad, tous les samedis à 17h.
Oh, she may be weird.
France Inter et le Théâtre du Nord à Lille présentent du 9 au 17 mars Alice etc. Divertimento autour de 3 courtes pièces de Franck Aramé et Dario Fo, mises en scène par Stuart Side. Voyage jubilatoire à travers les menus crises d'usure du coup et les désenchantements de certains combats féministes. Alice etc. à retrouver dans les émissions de France Inter. France Inter, la différence.
16h, passé de 4 minutes sur France Inter, et c'est à vous, Frédéric Ledéon, bonjour.
Bonjour Sophie-Marie. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Voilà, une joie annuelle qui se reproduit heureusement et depuis quelques années maintenant avec une grande régularité. C'est le coffret avec un joli livret d'ailleurs, publié chez Emi Classics, Martha Argerich et ses amis. Et c'est pas en direct, mais enfin ça vient du Festival de Lugano et ce sont des enregistrements pris sur le vif. Donc la grande Martha qu'on ne présente plus et qu'on adore évidemment toujours, enfin moi et puis je ne suis pas le seul, et qui continue une carrière absolument éblouissante, mais très souvent en compagnie de proches, en compagnie de jeunes artistes. D'ailleurs, elle n'aime pas tellement jouer seule, et puis ça se remarque, et puis c'est très bien, parce qu'elle insuffle son énergie, sa virtuosité, son autorité, son charme à toutes les interprétations. Voici, par exemple, tiré du Songe d'une nuit d'été de Félix Mendelssohn, un scherzo transcrit pour piano, Martha Argerich et Christina Marton. Thank you. Car vomissons d'une nuit d'été, Félix Mendelssohn, un tourbillon.